Jean Diré des Nouvelles,
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est un classique du théâtre du XXe siècle, une pièce écrite en 1951 par Eugène Ionesco, l'un des piliers du théâtre de l'absurde. C'est l'histoire de deux vieux, âgés de 94 et 95 ans, qui vivent isolés dans une maison battue par les flots. Un vieux couple qui accueille des invités imaginaires pour leur faire une grande annonce, une magnifique histoire d'amour que nous font découvrir ou redécouvrir deux immenses interprètes, couple dans la vie et sur les planches, qui en magnifient chaque instant, chaque mot, chaque geste, dans une mise en scène ciselée par Bernard Lévy. Les chaises d'Eugène Ionesco, avec Thierry Bosque et Emmanuel Granger. C'est un spectacle RFI, c'est au Théâtre de l'Aquarium jusqu'au 14 avril, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, tous les trois, car au fond, ce spectacle, Bernard Lévy, c'est pour eux, hein, c'est pour Thierry Bosque et Emmanuel Granger, que vous avez eu envie de le monter.
Oui, pour eux, pour moi, pour eux. Mais c'est vrai que sans, au départ, Thierry, que je connais depuis maintenant 2006, donc ça fait vraiment 13 ans, c'est notre quatrième spectacle. Et donc c'est un chemin comme ça qu'on parcourt à deux. Notamment avec Beckett, mais aussi un texte de Aaron Appelfeld, Histoire d'une vie. Oui, alors donc après, j'ai eu envie de monter les chaises avec Thierry, et évidemment la présence d'Emmanuel Granger s'est imposé.
Mais alors pourquoi est-ce que Thierry Bosque vous a donné envie de monter les chaises?
Non, c'est pas forcément Thierry Bosque qui m'a donné envie de monter les chaises. J'ai eu envie de travailler sur un texte sur les personnes âgées. J'ai longtemps cherché. Et puis Thierry, il se trouve que dans les répétitions qu'on faisait ensemble, il faisait souvent l'idiot à faire le petit vieux comme ça, très âgé. Et à chaque fois, ça me faisait rire. Et avec mon dramaturge Jean-Luc Vincent, je lui disais que je cherchais un texte sur les personnes âgées, indépendamment de Thierry. Et puis, on a eu une proposition pour créer un texte au Festival des Nuits d'Elkaté. Et il m'a dit, relis ce texte, je l'ai relu comme ça plusieurs fois, et j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes.
Alors, comment on fait le petit vieux pendant les répétitions, Thierry Bosque? Parce que là, il m'intrigue, là, Bernard Lévy.
Oui, alors, finalement, bien, on ne fait pas le rigolo comme je le faisais au cours d'autres répétitions. On cherche plutôt, bien sûr qu'on se base sur sur une démarche, sur des gestes, sur... on a quand même pas mal de gens autour de nous qui sont encore plus vieux que moi, par exemple, et dont on peut s'inspirer. Voilà, merci. Oui, on a surtout essayé de tirer le maximum de toute réplique, de tout texte. Ce spectacle, c'est vraiment là, fait honneur à la, je dirais, à la colonne vertébrale textuelle de Ionesco, dont j'avais un peu peur au début.
Ah bon, pourquoi il fait peur, Ionesco?
Non, mais pour moi, on est toujours on est toujours ignare sur quelque chose. Et moi, j'étais un peu ignare sur les possibilités d'émouvoir, par exemple, de Ionesco. Voilà. Me suis aperçu du contraire.
Ah, bah oui, là, c'est clair. Voilà. Je pense que chaque spectateur s'en rend compte.
Je l'avoue.
Au théâtre de l'Aquarium. Alors, justement, quand vous avez relu ce texte, Bernard Lévy, vous aviez déjà, donc, en tête, les deux visages d'Emmanuel Granger et de Thierry Bosque.
Oui.
Le vieux et la vieille, c'était forcément eux.
Oui. Dans la mise en scène que je voulais faire, oui, c'était forcément eux.
Mais eux grimés, parce qu'il y a beaucoup de maquillage, hein. C'est impressionnant.
Non, oui. Ah bon, pas tant que ça. Enfin, à part la perruque pour Emmanuel, il y a pas tant que ça.
Les perruques sont très gris aussi, hein. Voilà, donc il y a aussi.
Oui, un peu, mais franchement, pas tant que ça. Hein. Rien à côté de ce qui se fait d'habitude quand on monte les chaises. Les acteurs sont souvent bien plus grimés que ça.
Moi, j'en fais moins. Bien sûr, Emmanuel à ma droite a une perruque.
Non, moi, je suis très très légère. J'en fais pas beaucoup.
Non, jamais. Alors, justement, jouer une histoire d'amour avec l'homme qu'on aime et qui partage votre vie, Emmanuel Granger.
C'est pas facile. Hein,
c'est plus compliqué.
Non.
Vous commencez à avoir l'habitude maintenant.
Non, je blague. C'est absolument un on va dire un délice. Voilà, ça fait quand même quelques années que nous nous connaissons et que nous vivons ensemble, que nous partageons un quotidien de bonheur, de malheur, de disputes, de voilà, un quotidien. Donc, et nous sommes, je pense, des constructeurs. Donc, au théâtre, forcément.
Mais alors
donc, c'est une belle rencontre de tous les jours. De, nous allons main dans la main au théâtre, nous en ressortons main dans la main, nous nous engueulons, nous nous aimons toujours.
Oui, et pour entrer dans vos rôles, Bernard Lévy vous a incité à aller chercher dans votre vie personnelle.
Alors effectivement, Bernard, quand il m'a vu, évidemment, c'est le choc parce que j'ai pas des cheveux blancs, donc il m'a dit ça va pas du tout. Donc il m'a affublé d'une perruque tout de suite. Ensuite, c'est ni Thierry ni moi, même si Thierry dit qu'il a 10 ans de plus que moi, ce qui est vrai, nous n'allons pas vers une composition du personnage. Je pense que c'est plus à l'intérieur. Je ne change pas ma voix, je ne pense pas. Évidemment, c'est amusant parce que j'ai une robe aussi. Donc le costume, la perruque fait que le corps s'en empare de tout ça. Eh ben, on marche un peu plus doucement, et puis on s'amuse aussi avec ça. Et je pense que c'est le texte aussi, et puis c'est la direction d'acteur de Bernard Lévy qui fait que nous avons ce corps-là d'un seul coup, ce corps qui a d'un seul coup, quel âge j'ai ? Oh, je suis toute jeune, mais qui a à peu près 30 ans de plus, 40 ans de plus, et on y va, mais nous ne sommes pas dans la composition.
Allons mon chou, ferme la fenêtre. Ça sent mauvais l'eau qui croupit. Et puis l'antre des moustiques.
Laisse-moi tranquille.
Allons mon chou. Viens t'asseoir.
Je veux voir. Les barques sur l'eau font des taches au soleil.
Tu ne peux pas les voir, il n'y a pas de soleil. C'est la nuit mon chou.
Il en reste l'ombre.
Oh, tu me fais peur. Viens t'asseoir, tu ne les verras pas venir, c'est pas la peine. Il fait nuit.
Je voulais voir. J'aime tellement voir l'eau.
Comment peux-tu, mon chou? Ça me donne le vertige. Ah, cette maison, cette île, je ne peux m'y habituer. Tout entouré d'eau, de l'eau sous les fenêtres jusqu'à l'horizon.
Emmanuel Granger et Thierry Boss sur le plateau du théâtre de l'Aquarium, et si j'ose dire, un aquarium dans l'aquarium, hein, puisque la scénographie signée Alain Lagarde présente au spectateur une boîte vitrée, hein, Bernard Lévy, une sorte de cage de verre transparente. Pourquoi un tel dispositif?
Mais en fait, je voulais qu'on soit comme des entomologistes, qu'on les observe, qu'on les voit chez eux. Je voulais un couple ordinaire. Je voulais pas du tout. Vous savez que souvent c'est monté et c'est monté de façon un petit peu farcesque ou grotesque ou et ces personnages là sont un petit peu des archétypes, deviennent des archétypes. Moi j'avais tout de suite envie que le spectateur soit plongé devant une scénographie qui déjà le questionne et qui nous permette à la fois d'être très proche d'eux et en même temps avec une distance liée à cette paroi en verre qui fait qu'on les observe.
Alors le spectateur, il est assis, non pas sur des chaises, mais dans des fauteuils. On peut dire que d'une certaine façon, ils sont des invités aussi.
On pourrait dire ça. On pourrait dire que le public est une sorte de comment on dit, pas d'extrapolation, mais dans la continuité des chaises qu'ils observent. J'ai souvent pensé à ça. Oui, je l'aurais même dit.
Et dans la cage de verre, il y a un intérieur qui est un peu défraîchi. On est vraiment dans la vie quotidienne. Hein. Il y a des piles de journaux.
Oui.
Il y a une vieille radio. On est à la fois très loin du monde puisqu'on est censé être dans une maison battue par les flots et en même temps, on n'en est pas complètement coupé, quoi, puisqu'on est vraiment dans le quotidien. Il y a les bruits du monde.
Moi, je n'ai pas gardé l'idée qu'on soit dans une maison battue par les flots. Je trouve pas ça forcément dans ma mise en scène. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'idée quand j'ai rencontré Alain Lagarde et le travail qu'on a fait, je lui ai dit dès le début, tu vois, tu imagines une tour avec un appartement éclairé, voilà, c'est là. Ils habitent là, ils sont simples, c'est des gens ordinaires, il est concierge, ils ont un message à dire au monde, comme toute personne qui a envie de parler au monde, que ça soit consciemment ou inconsciemment, et voilà, il faut qu'on les regarde chez eux.
Voilà, des gens ordinaires, hein,
très ordinaires, très simples.
Bernard Lévy, est-ce que vous avez trouvé les uns et les autres, Thierry Bosque et Emmanuel Granger, la réponse à la question: qui sont-ils? ces deux personnages, parce que le spectateur, lui, il se pose la question, est-ce que ce sont deux vieux qui sont en train de perdre la mémoire, atteints peut-être par une maladie neurodégénérative, est-ce que ce sont des deux vieux qui jouent, qui s'amusent à jouer avec leurs souvenirs, qui essaient de meubler un quotidien qui est pas forcément très terreur rose, est-ce que ce sont des personnages qui existent réellement, est-ce que ce sont des personnages des sortes de figures abstraites, est-ce que vous avez la réponse à ces questions-là, et est-ce qu'on est obligé de trancher finalement? Thierry Bosque.
Pour moi, ce sont des personnages très très ordinaires, mais comme nous, je veux dire, on n'est pas. Ce sont des personnages quotidiens. Est-ce qu'il se rejoue cette scène depuis tant d'années, plusieurs fois, et que cette fois ça va être la bonne? Est-ce que c'est le goût de... Finalement, Ionesco est très fort pour cette proposition-là, d'inventer des... Parce que ils ont une dextérité incroyable, les vieux, là. Puisque, quand même, ils imaginent à 100 à l'heure. Ouais, des personnages, et des personnages, et encore une ancienne amoureuse, un colonel.
Oui, c'est absolument foisonnant.
Incroyable. Hein. Des journalistes aussi.
Qui arrivent. Mais je crois que c'est aussi autant de... Oui, excusez-moi. Ces personnages-là sont en fait comme des pensées. C'est-à-dire que dans l'idée, au départ, Ionesco, quand il dessine sa première scénographie, c'est en arc de cercle, comme une sorte de crâne, avec des tas de portes, comme si c'était, ces portes-là correspondaient à l'entrée d'une pensée, d'une association, comme ça, d'idées. Donc, tous ces personnages-là, c'est un petit peu leur pensée, leur fantasme, c'est ça qui se passe.
Mais avec une variété de jeux extrêmement large, aussi une vraie palette de jeux. Par exemple, votre personnage, Emmanuelle Granger, elle est successivement très amoureuse et très tendre, elle est maternelle aussi, elle est protectrice vis-à-vis de son mari, et parfois c'est elle qui prend des airs de petite fille. Parfois le rapport s'inverse entre les deux personnages.
Oui, mais c'est ça notre plaisir à nous comédiens, parce que effectivement le texte n'est pas rectiligne,
linéaire,
oui. Voilà, linéaire, il est fait d'accidents toujours. Il est fait il est réaliste, il est poétique, il est doux, il est violent, voilà, tous ces adjectifs qui font que nous, ben, on se meut avec ce texte-là. Voilà. Et effectivement, on passe par différents états, différentes sensibilités, différentes émotions, que ce soit le rire, les pleurs, la douceur, tout simplement, l'échange de mots banals. Oui.
Thierry Bosque, c'est vrai que votre personnage, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il est dominateur, on sent qu'il est très très sûr de lui, et puis quelques minutes après, parfois même quelques secondes après, c'est tout le contraire, quoi. Il est dans une régression, il devient presque un gamin, il a l'air complètement perdu, il a besoin d'être rassuré.
Voilà, mais vous venez de dire le mot, quelques secondes après, et ça change sans aucune observation psychologique, ça change, et ça c'est comme dans la vie, c'est exactement ça, quand il a des trous de mémoire, par exemple, au début du spectacle surtout, parce qu'après il imagine tellement qu'il ne s'arrête plus. Mais au début, quand il a des trous de mémoire, sa femme, toujours, sa crotte, sa compagne, essaye toujours de le soutenir. Mais moi, j'adore ces moments où elle va dire « Je ne sais pas, mon chou. » Elle aussi, elle non plus, ne sait plus, brusquement. Et on peut se dire, avec trois mots de la femme, on peut se dire qu'elle aussi, elle ne sait plus rien, ou elle a oublié, voilà.
Il est 6h de l'après-midi, il fait déjà nuit. Tu te rappelles, jadis? Ce n'était pas ainsi, il faisait encore jour à 9h du soir, à 10h, à minuit.
C'est pourtant vrai. Quelle mémoire!
Ça a bien changé.
Pourquoi donc, selon toi?
Je ne sais pas, c'est Miramis Macrotte. Peut-être parce que plus on va, plus on s'enfonce. C'est à cause de la Terre qui tourne, 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 tourne.
Tourne, tourne, mon petit chou. Ah oui, tu es certainement un grand savant. Tu es très doué. Tu aurais pu être roi-chef, président-chef, ou même docteur-chef. maréchal-chef si tu avais voulu, si tu avais eu un peu d'ambition dans la vie.
À quoi cela nous aurait-il servi? On n'en aurait pas mieux vécu. Et puis, nous avons une situation. Je suis maréchal tout de même. Des logis, puisque je suis concierge.
Mon petit chou, mon mignon.
Voilà, on sent, hein, fait la vieille Emmanuel Granger, une immense affection, une grande admiration pour son
oui.
mari, ou c'est une façon de le rassurer?
Non, sans doute une admiration absolument réelle, un étonnement, il lui apprend des choses, elle le croit ou elle le croit pas, mais en tous les cas, ils sont non, je crois que c'est vraiment, c'est d'une grande sincérité, voilà. Je pense que nous partons là-dessus, Thierry, aussi bien que moi, sur, oui, alors, bon, c'est peut-être répétitif, on dit toujours ça au théâtre, il faut jouer sincèrement, mais c'est réellement ça, sur une grande sincérité, voilà.
Est-ce que le vieux et la vieille forment un couple heureux?
Oui.
Oui.
Il me semble, c'est un peu un résumé de toute une vie, comme disait Emmanuel tout à l'heure, avec, pour nous, d'ailleurs, c'est-à-dire bonheur, amour, et puis engueulade, et...
Parce qu'il aurait aimé, quand même, le vieux, il aurait aimé être plus mondain, voir davantage de monde, être plus reconnu, parler, avoir des discours peut-être un peu plus intellectuels. Également, il n'a pas l'impression, quand même, d'être passé un tout petit peu à côté de sa vie, en tout cas de ne pas avoir été reconnu à la hauteur de sa valeur.
Oui, oui. Mais ce sont des gens assez ordinaires qui ont un rêve. En tout cas, lui, il a envie de commenter le monde d'une façon. Il a même un discours à la fin assez tendancieux, hein, très comment on peut appeler ça,
tyrannique.
Obéissez-moi, car j'ai la certitude absolue, quand même, dit-il, dans son délire, quoi. Mais en même temps, il est tout simple, voilà. Moi, je crois surtout que les gens, ce qui m'a beaucoup frappé, parce que le spectacle évolue, il évolue en bien, naturellement.
Oui.
On l'a joué il y a un an, on l'a joué même il y a deux ans, et là, maintenant, il a pris du poids, si j'ose dire. Et l'une des choses qui me ravit le plus quand j'entends les spectateurs, on avait vu d'autres, par exemple, on avait vu d'autres versions, d'autres mises en scène. C'était beau, mais on ne se souvenait plus de quoi ça parlait. Et le vôtre, on sort, on a tout entendu. Alors moi, je crois que les gens sortent tout en riant et en pleurant en même temps. Voilà.
L'intelligibilité du texte, c'était vraiment l'un de vos soucis, Bernard Lévy?
Enfin, je me pose pas la question comme ça, en fait. Je fais attention, je fais gaffe à ça, parce que l'intelligibilité du texte, je veux pas non plus que ça soit à la gare des Michards, quoi.
Mais vous en êtes très loin.
C'est pour ça que je me pose pas la question comme ça. Moi, vous savez, je déroule, je suis sur le premier mot, le deuxième mot, le troisième, la phrase, la scène. C'est des notes, c'est des mots qui m'ouvrent sur du sens. Et puis, je déroule un fil, et puis, je sais pas où ça va me mener. J'ai une petite idée, mais je sais pas trop. Et voilà. Donc après, évidemment, je laisse rien passer. Et quand je comprends pas, je m'arrête et on retravaille. Et des fois, on n'y arrive pas. Je laisse passer et puis j'y reviens. Et puis des fois, le temps joue pour nous parce que ils produisent des signes, des choses que j'observe et ils m'ouvrent sur d'autres horizons. Et j'essaye de rebondir sur leurs propositions pour donner de nouveau un sens. Et puis je travaille comme ça par strates un petit peu. Mon idée, c'est si ça me convient, ça doit être un peu intelligible. Après, est-ce que c'est intelligent, c'est autre chose.
Vas-y alors, raconte ton histoire. Alors, on a ri.
Alors, on a ri. Ma crotte.
Alors, on a ri. Mon chou.
Alors, on a ri. On arriva près d'une grande grille. On était tout mouillé, glacé jusqu'aux os depuis des heures, des jours, des nuits, des semaines.
Des mois.
Dans la pluie, on claquait des oreilles, des pieds, des genoux, des nez, des dents. Il y a de cela 80 ans. Ils ne nous ont pas permis d'entrer. Ils auraient pu au moins ouvrir la porte du jardin.
Dans le jardin, l'herbe était mouillée.
Il y avait un sentier qui conduisait à une petite place, au milieu, une église de village. Où était ce village, tu te rappelles?
Non, mon chou, je ne sais plus.
Comment y arrivait-on? Où est la route? Ce lieu s'appelait, je crois, Paris.
Ça n'a jamais existé, Paris, mon petit.
Cette ville a existé puisqu'elle s'est effondrée. C'était la ville de lumière puisqu'elle s'est éteinte. Éteinte et il y a 400 000 ans. Il n'en reste plus rien aujourd'hui sauf une chanson.
Une vraie chanson? C'est drôle. Quelle chanson?
Une berceuse. Une allégorie. Paris sera toujours Paris. Paris.
On y allait par le jardin. Était-ce loin?
Ah oui. La chanson? La pluie?
Voilà, on a laissé dérouler l'extrait de façon assez longue parce que je voudrais vraiment insister sur le mot qui, moi, m'est venu tout de suite à l'esprit dès le début de la pièce et jusqu'à la fin, c'est le mot justesse. Vous êtes incroyablement juste tous les deux, Thierry Bosc et Emmanuel vraiment Granger. Mais du début à la fin, on a vraiment l'impression que vous avez à la fois peser, sous-peser chaque mot, que vous le goûtez, que vous nous le faites goûter, et en même temps que ça se déroule de façon parfaitement fluide. Comment est-ce qu'on parvient à cette justesse-là? Donnez-nous un peu la recette. On répète chaque mot, chaque phrase jusqu'à la perfection?
Non, mais on travaille beaucoup, oui. Ah oui, on travaille beaucoup. Mais avec Bernard Lévy, on ne travaille pas dans... Comment dire, dans la force ou dans la, il faut y arriver. Non, c'est une chose qui se prend, qui se déguste, qui se digère et qu'on va essayer de redonner comme ça. Mais c'est un travail effectivement de tous les jours.
Mais mot par mot, phrase par phrase, scène par scène, comment vous travaillez?
Non, parce qu'on sait à peu près parler, mais quelquefois, excusez-moi, je plaisante. Mais c'est qu'est-ce que ça veut dire? Puis qu'est-ce que ça veut dire au moment? Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi cette phrase-là dans le contexte d'avant et peut-être pas d'après, parce qu'après, il faut toujours se méfier. Enfin, les événements arrivent qui vont bousculer les choses. Mais en tous les cas, oui, nous sommes des travailleurs, mais des travailleurs d'intelligence aussi, effectivement. Donc, on met la main à la pâte et puis le cerveau aussi en route. On y va.
Les mots sont chargés effectivement en émotion, ils sont chargés en information, en sens, en intelligence aussi. Mais il n'y a pas que les mots, il y a aussi les silences. C'est quoi un beau silence, Thierry Bosc?
Ça c'est pas tout simple. Par exemple, en ce moment, Bernard me demandait, parce qu'on continue à travailler tous les soirs, Bernard me demandait récemment le dernier discours, donc vous avez vu, vous, que l'auditeur n'a pas vu, sans doute, essaie d'imaginer un peu plus tout ce discours, essaye d'imaginer les remerciements, et en effet, là, je mets de très courts silences, et je cherche surtout. C'est dangereux, parce que quelquefois on en oublie le texte, mais je crois que au théâtre, les silences sont naturellement accompagnent, j'allais dire presque aussi important que le texte, mais accompagnent le texte. Évidemment, les silences sont émotionnels aussi, pourquoi pas. Voilà, je ne sais pas comment. Par exemple, là, les trous de mémoire, c'était assez délicat à traiter, parce qu'il y a une, il y a dans le texte de Ionesco, il y a une histoire, qu'il essaye de raconter, et dans le texte, dans le corpus, c'est entre guillemets. Mais comment faire sentir le texte et la parole directe, c'est pas toujours facile. Voilà. Bon, on y arrive avec du travail, comme dit Emmanuel. On a travaillé tout en sensibilité. Il faut dire aussi que on a mis qu'un mois les premières répétitions avant ce fameux festival dont parlait Bernard. Un mois. Bon, c'est vrai que là, le fait peut-être d'être deux comédiens mariés dans la vie, les choses vont un peu plus vite. Oui. Il y a quelques petits gestes de pudeur qu'on aurait plus de pudeur à accomplir et qui viennent un peu plus vite, tels que une main sur un genou, un baiser, une grande émotion à un moment, par exemple, au moment de la crise du personnage de Sémiramis debout sur sa chaise, etc. Voilà. Je ne sais pas si je réponds bien.
Si, hein, si, mais parfaitement. Mais pour revenir aux mots, pour revenir au texte, Bernard Lévy, est-ce que la langue de Ionesco, il y a quand même beaucoup d'indications scéniques, mais est-ce que la langue en elle-même, c'est une partition qui est contraignante dans l'écriture, dans le rythme, dans les mots, où chaque comédien peut lui imprimer sa propre musicalité. Quelle est la marge de manœuvre, la marge de liberté?
Vous employez le mot musicalité, mais chez moi c'est très important en fait. Du coup, je pense, j'imagine, comme pour beaucoup de metteurs en scène, mais je m'en rends compte que c'est quelque chose qui compte énormément. Et vous parliez de silence, ça pourrait être comparé à l'opéra. Là, je viens de faire un opéra où je demandais des fois des respirations au chef et au chanteur. Ça pourrait être comparé à ça. Alors, un silence n'a de valeur que par ce qui précède et ce qui suit. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer un silence si vous n'avez pas travaillé, évidemment, c'est une lapalissade, ce qui précède et ce qui suit. Mais c'est vrai que chez moi, le silence, par exemple, c'est pratiquement ce que je préfère au théâtre. C'est-à-dire, laisser résonner, laisser le point de rencontre entre un imaginaire qui est celui des comédiens et l'imaginaire des spectateurs, ce serait peut-être comme une sorte de... au cinéma, comme une sorte de changement de focale ou un zoom ou un point de rencontre comme ça, une sorte d'acmé qui voilà. Alors tout ça c'est aussi très musical. Oui. Et je dois dire aussi, parce que ce qui compte aussi beaucoup je crois au théâtre, c'est le rythme. Évidemment, trouver son rythme. Là, de la même façon, à l'opéra, la portée, on a un rythme qui est donné par la musique, et à l'intérieur de ce rythme, des fois, c'est difficile de faire vivre le texte parce qu'il est donné. Au théâtre, il faut le trouver. Et quand on l'a trouvé, on sait qu'on est juste.
Le théâtre, l'opéra. Et par le rythme, je voudrais qu'on passe aussi peut-être à la chorégraphie, parce que là aussi c'est un vrai travail de précision, parce que le déplacement des personnages, il semble aussi extrêmement étudié de près, notamment évidemment le jeu avec les chaises, mais pas seulement. Je voudrais justement qu'on parle un petit peu des chaises, hein, ces chaises qui restent vides hein, sur le plateau. Les invités arrivent, mais le spectateur ne les voit pas, ces chaises qui sont alignées d'une façon très ordonnée hein, au début, et après ça peut changer peut-être un petit peu. C'est une vraie chorégraphie des chaises que vous avez instaurée. C'est là aussi un travail de précision, Bernard Lévy.
Ouais. Peut-être, oui et non, parce qu'en fait, si vous faites, alors, les chaises qui arrivent une par une, oui, là, on a beaucoup cherché, on s'est pris la tête, entre guillemets.
Oui.
Pardonnez-moi l'expression, parce que évidemment il fallait trouver le bon rythme d'arrivée de la chaise, à quel endroit on la met, on se perdait. Après, si vous faites référence à cette grande scène où toutes les chaises arrivent, où Sémiramis, donc le personnage qui est joué par Emmanuel, toutes ces chaises qui rentrent dans cet espace, je n'ai pas tellement chorégraphié ce moment-là. Ça s'est fait par petites touches. J'ai laissé un petit peu Emmanuel et Thierry se débrouiller, enfin entre guillemets, sous mon regard. en essayant de les aiguiller. Mais je n'ai pas, d'abord parce que ça aurait été très très difficile d'arrêter cette scène qui doit se jouer dans la continuité. Et Emmanuel part dans tous les endroits pour aller chercher des chaises. Si j'avais dû arrêter à chaque fois, on s'en serait pas sorti. Surtout, il serait très très fatigué. Ah, donc, oui. je faisais attention à ce que les choses se passent par à-coup, comme ça. À chaque répète, je leur disais, voilà, ça, il faut corriger. Ça, là, vous pouvez parler comme ça. Là, ce serait bien, c'est que dans le corps, vous bougiez de cette façon-là. Là, et du coup, au bout d'un moment, bon, voilà, on arrive à la scène, comme ça.
Mais est-ce que il y a eu un casting des chaises, si j'ose dire? Parce que toutes les chaises,
sont pas identiques. Oui, ça, c'est le scénographe, et d'ailleurs, on voulait, et Alain Lagarde voulait que les chaises soient dépareillées, et moi aussi, je voulais qu'il y ait des chaises de cuisine aussi bien que d'autres chaises, et il y a eu effectivement un casting de chaises tout simplement fait au bon coin.
Voilà, au bon coin, voilà, pas de publicité.
D'accord, Bernard
Lévy. Voilà, bon, un magasin de meubles, voilà, en tout cas.
Voilà.
Donc, mais ces chaises, justement, pour vous, Emmanuel Granger, ce sont des accessoires? Ce sont des objets ou ce sont des personnages, des partenaires?
Ah ben alors là, ça dépend desquels. Moi, j'ai des chaises privilégiées. J'ai ma première dame, quand même, qui est ma grande amie. Hein, j'y parle souvent, je reviens vers elle, jusqu'au moment où on va me présenter le photograveur, mais je vais quand même avoir un petit geste encore vers elle.
Voilà, ça, donc c'est les invités qui arrivent.
C'est les invités, hein. Il y en a quelques-uns qui sont nommés comme ça. Donc il y a la dame, il y a le colonel, il y a le photograveur, il y a, je sais plus, encore deux, trois comme ça qui sont nommés. Puis après, c'est la foule qui arrive. Donc, forcément, les chaises au fur et à mesure sont de plus en plus incognito, d'ailleurs, la vieille, elle perd la tête, elle sait plus, elle demande, je sais pas, 4, 5, 6 fois au vieux, mais qui sont tous ces gens-là, mon chou? Voilà. Donc, oui. Voilà. Et même lui aussi, ne sait plus.
Alors justement, là, on est vraiment dans le théâtre de l'absurde, là, Bernard Lévy, ou pas tant que ça? Parce que, c'est quoi l'absurde de Ionesco dans une pièce comme Les Chaises, vue et revue par Bernard Lévy?
Oui. Alors, abordons le sujet du théâtre de l'absurde. Alors, pour moi, je le dis tout de suite, ça ne veut rien dire. La question de l'absurde en soi, elle peut se poser, mais en termes de théâtre, pour moi, ça ne veut dire absolument rien, si ce n'est que c'est effectivement une sorte de courant qui a été, en tout cas, un mot qui a été posé sur un théâtre, évidemment, qui est plus un théâtre des années 50. Mais ça voudrait dire quoi?
Donc, Ionesco, Beckett, Pinter, Adamoff.
Pinter, voilà. Mais et Pinter à un degré moindre. Mais qu'est-ce que moi je peux faire avec ça? Une fois que je sais que c'est du théâtre de l'absurde, je peux rien faire parce que ça ne me donne pas à penser. Ça voudrait dire quoi d'ailleurs le théâtre de l'absurde?
Il faut pas se laisser enfermer dans le terme.
Non, mais non seulement il faut pas se laisser enfermer, il faut lutter. C'est-à-dire qu'il faut, pour ne pas se laisser enfermer, il faut lutter. C'est-à-dire qu'il faut déjà essayer de comprendre ce que ça veut dire, dans quel contexte il a été dit, et qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que le théâtre de l'absurde, c'est nier toute causalité à un mot qui suit à un autre? C'est faux. Ça veut rien dire. Et puis une causalité, elle peut être bonne à une certaine époque et plus du tout après. Je ne comprends pas ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui n'est pas d'ailleurs dans l'exemple des chaises, mais le monologue de Lucky dans chez Godot, très longtemps, on l'a joué de façon très rythmique, comme ça, ça ne voulait rien dire, on ne comprenait pas ce que ça veut dire. Mais c'est faux. Il dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Au contraire, il faut, et même si c'est absurde, il faut trouver le pourquoi de cette prétendue absurdité. Si moi, je m'en tiens à dire que l'absurde, c'est que ça m'empêche de réfléchir sur les choses et que, à la limite, je pourrais travailler suivant ce que pourrait être un théâtre de l'absurde. Mais comment? Alors, de façon grotesque, de façon ironique, par le rire, mais je, au bout d'un moment, je vais m'ennuyer.
Si j'en crois plein d'ennui. Nul espoir n'est permis. Pourtant je veux jouer ma chance, même si je devais. Je reprends confiance, je me dis, tout pourrait changer aujourd'hui. Love me, please love me, je suis fou.
Michel Polnareff dans VMDN sur RFI avec le metteur en scène Bernard Lévy et ses acteurs Emmanuel Granger et Thierry Bosque pour Les Chaises d'Eugène Ionesco actuellement au théâtre de l'Aquarium à Paris. Et cette chanson d'amour, on l'entend en sourdine hein, dans la pièce, à plusieurs reprises d'ailleurs, hein, quand le vieux tourne le bouton de sa radio. Pourquoi cette chanson-là, Bernard Lévy ?
Je voulais qu'il y ait de la variété. À partir du moment où il y avait cette petite radio, j'aime beaucoup cette chanson, j'aime beaucoup tout, d'ailleurs toutes les chansons qu'il y a et toute la bande-son.
Il y a du Delpech aussi.
Mais il y a du Delpech, il y a d'autres choses. Et puis il y a un morceau de Philippe Glass qui, lui, ne sort pas de la radio et vient régulièrement tout au long du spectacle. Je voulais, oui, toujours dans ce souci de quotidien, d'ordinaire. Après, bon, les raisons aussi sont très intimes. C'est-à-dire que moi, chez moi, il y avait une radio comme ça, tout le temps, en plein milieu de la table, et j'ai été élevé avec cette radio qui marchait, et je connais toutes les émissions,
branché sur RFI, évidemment. Voilà, forcément. Bon, Love Me, Please Love Me. En tout cas, c'est une formidable histoire d'amour hein, que vous mettez en scène avec ce vieux couple, hein, le vieux et la vieille, formés sur scène par Thierry Bosque et Emmanuel Granger. Une histoire d'amour jusque dans la mort que les deux personnages évoquent sans phare, hein, sans se cacher derrière les mots.
Ô toi, fidèle compagne, toi qui as cru en moi sans défaillance pendant un siècle, qui ne m'a jamais quitté jamais, j'aurais pourtant voulu tellement finir nos os sous une même peau, dans un même tombeau, de nos vieilles chairs nourrir les mêmes vers. Ensemble pourrir.
Ensemble pourrir.
Ne nous plaignons pas trop. Nous ne serons pas oubliés. On se souviendra de nous toujours.
Toujours.
Nous laisserons des traces, car nous sommes des personnes et non pas des villes.
Nous aurons notre rue.
Nous aurons notre rue. Soyons unis dans le temps et dans l'éternité, si nous ne pouvons l'être dans l'espace, comme nous le fûmes dans l'adversité. Mourons au même instant.
Thierry Bosse, qu'est-ce que le vieux et la vieille ont peur de la mort?
Je crois que quand on s'en approche, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce qu'ils ont peur? Non, je crois qu'ils sont plus attristés de se séparer malgré tout. Hein?
Oui, parce
plus que de mourir.
Ouais, c'est vrai que ce qui leur fait peur, c'est la séparation. Voilà. Et la séparation, qui est un concept qu'on peut trouver abstrait, elle apparaît réellement sur scène à travers la mise en scène, voilà. Et à travers justement cette accumulation de faits, ce qui va vraiment séparer les deux personnages. C'est très fugace, hein, Emmanuel Granger, et pourtant ça vous plonge tous les deux, ça plonge vos deux personnages dans un vrai désarroi. Cette séparation-là, oui. Ils peuvent pas la supporter.
Ah oui, vous parlez de la scène où on est tous les deux séparés par oui. toutes ces chaises, oui, à cour et à jardin. Oui, en tous les cas, pour elle, lui essaye encore de la rassurer parce qu'il a encore des discours à faire, donc il s'adresse aux chaises, donc aux visiteurs, comme ça, il s'adresse, et puis elle est sur sa petite chaise, complètement isolée, elle n'a qu'une seule envie, c'est que tout ça finisse, qu'il se retrouve, effectivement, oui, la séparation est vécue très douloureusement.
Oui, et ces visiteurs, alors justement, parce que vous réutilisez ce mot-là, qui sont-ils, ces visiteurs que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas, sauf à considérer que ce sont les chaises elles-mêmes?
C'est, de toute façon, oui, d'où la disparité des chaises, c'est formidable. En fait, c'est peut-être toutes les connaissances qu'a eu ce couple durant toute leur vie. En tout cas, peut-être, alors pas seulement leur vie commune, hein, puisqu'on voit apparaître la belle, et etc.
Oui.
Mais oui...
tous ceux qu'ils ont connus, mais aussi ceux... peut-être tous leurs espoirs, tous leurs rêves, tous leurs regrets. Hein, aussi. Il y a l'enfant aussi, cette ombre qui plane effectivement sur la vie du couple. Très important aussi, l'enfant n'en a pas dit un mot.
C'est très bizarre, on reste en suspens.
Oui, selon elle, ils ont eu un fils.
C'est aussi une machine qui s'emballe. Ces personnages qui rentrent, ça les surprend. C'est-à-dire que c'est pour ça que le personnage de Sémiramis dit mais qu'il s'en aille. C'est-à-dire lui est le chef d'orchestre de cette soirée, mais elle lui échappe. Et puis lui, il sait pas toujours. Il les fait peut-être venir, mais il sait pas quoi leur dire. Et à la fin, il va dire des choses. Mais donc ces pensées-là, enfin ces personnages, vous voyez, j'ai dit pensées, c'est aussi des pensées qui viennent, c'est-à-dire qu'à force d'en faire venir, bah, au bout d'un moment, peut-être la vie, la mort approchant, elles arrivent par flot, et on est débordé par tout ça, à la fois par ces personnages, par ces fantasmes, par ces pensées, et ça les submerge.
Il y a la fameuse phrase aide-moi à faire les présentations, Sémiramis.
Oui.
Donc là, c'est le bout du bout. Et monsieur, madame, mademoiselle, hein, qui rappelle d'ailleurs une chanson chantée par Ionesco lui-même, qui... Monsieur, madame.
Et puis c'est une façon de se parler entre eux aussi. C'est aussi une façon pour Ionesco de nous dire des choses. Il y a aussi un discours politique sous-jacent, évidemment, qui a une critique du communisme.
Alors on est en 1951.
Oui,
donc
voilà.
En fait,
et puis
froid,
à travers ce que vivait Ionesco en Roumanie, ce qui fait dire dans la tête pas le personnage du vieux quand il dit une seule vérité pour tous, obéissez. Lui, tout ça, c'est un peu une tyrannie, un système totalitaire. Je vais résoudre tous vos problèmes.
Voilà. Et alors, il a
seule vérité pour tous.
Voilà. Et le vieux, il a un problème, c'est que son fameux message universel qu'il a envie de délivrer, il peut pas le faire lui-même, et donc il va compter sur notre personnage qui s'appelle l'orateur.
Qui est joué par Michel Fouquet.
Michel Fouquet, absolument, qui est le troisième personnage que l'on voit visuellement sur la scène du théâtre de l'Aquarium. C'est lui qui est donc censé délivrer à l'assistance et au monde ce fameux discours. Et c'est devant lui, seul personnage assis sur l'une des chaises, les autres étant totalement vides, que le vieux prononce ce discours.
Ma femme et moi... n'avons plus rien à demander à la vie. Notre existence peut s'achever dans cette apothéose. Merci au ciel qui nous a accordé de si longues et si paisibles années. Ma vie a été bien remplie. Ma mission est accomplie. Je n'aurai pas vécu en vain, puisque mon message sera révélé au monde. Au monde, ou plutôt à ce qu'il en reste, à vous, messieurs, dames, et chers camarades, qui êtes les restes de l'humanité. Mais avec de tels restes, on peut encore faire de la bonne soupe. Orateur, ami, si j'ai été longtemps méconnu, mésestimé par mes contemporains, c'est qu'il en devait être ainsi. Qu'importe à présent tout cela, puisque je te laisse à toi, mon cher orateur et ami, le soin de faire rayonner sur la postérité la lumière de mon esprit. Fais donc connaître à l'univers ma philosophie. Ne néglige pas non plus les détails tantôt cocasses, tantôt douloureux ou attendrissants de ma vie privée, mes goûts, mon amusante gourmandise. Raconte tout.
Voilà, raconte tout. Hein. Oui, mais... On voit la mission, Bernard Lévy.
Oui, non, c'est-à-dire qu'en fait, il ne va dire aucun message, si ce n'est qu'il dit le principal. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, imaginons qu'il l'ait dit dans cette fin, le message qu'il voulait dire. Le seul message qu'il dit, ne parle même pas de sa philosophie. Ce qu'il dit de son message, c'est l'amour, l'immense amour qu'il porte à sa femme. C'est ça le message finalement. C'est-à-dire que dans cet endroit battu par les eaux, complètement isolé, c'est un couple qui a été baladé, qui s'est baladé dans la vie et qui a vécu des malheurs. Il le dit, on a eu un fils, on n'a pas eu de fils, on a eu et ils sont restés unis jusqu'à la fin et ils se sont supportés jusqu'à la fin. Ils ont été heureux ou pas heureux, parce que ce que c'est qu'un couple heureux. Moi, je ne sais pas ce que ça voudrait dire vraiment. Enfin, je pourrais le dire, mais il faudrait une autre émission.
Oui,
mais,
au moins.
Mais donc, c'est ça ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est que ils s'aiment. Et c'est peut-être ça que je crois qu'on n'entendait peut-être pas assez, peut-être parce qu'on voulait à tout prix qu'il y ait du rien qui soit dit ou un discours politique. Et que moi, je pense que ce qui compte pour moi, mais c'est cet amour.
Voilà, une grande histoire d'amour.
Les c'est une grande histoire d'amour.
De Ionesco, oui. Et c'est aussi ce que dit le tableau final. On va pas le révéler, mais il est absolument magnifique, très émouvant. Je laisse les spectateurs le découvrir. Une pièce dont on ressort heureux, ce qui n'était pas forcément évident en entrant.
Ça me fait plaisir.
Merci beaucoup à tous les trois.
Merci
d'être venus nous voir.
Merci.
Sur RFI. Emmanuel Granger, Thierry Bosque et Bernard Lévy. Les chaises d'Eugène Ionesco, c'est donc à voir au Théâtre de l'Aquarium jusqu'au 14 avril. Dans un instant, le journal sur RFI. À demain et vous m'en direz des nouvelles.
Pour partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.